carnet de campagne, bonjour. Carcassonne, Narbonne, Limoux, quelques noms de villes administratives qui nous conduisent dans un nouveau département de la région Occitanie, l'Aude. L'Aude qui conserve un bandeau noir en signe de deuil après les agressions subies il y a 10 jours. L'Aude qui ne se cache pas du soleil pour autant. Carcassonne accueillait récemment les rencontres régionales culture et patrimoine, faisant suite à un an de concertation avec les acteurs culturels et les animateurs ou animatrices du patrimoine. 3000 personnes étaient entrées en relation afin de renforcer ce qui fait déjà de la région une exception avec ses 30 millions de touristes annuels, ses 5000 monuments historiques, ses 8 sites inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO et ses innombrables artistes et professionnels du spectacle vivant. Bien que riche de tous ses faiseurs, de tous ses lieux prestigieux, une telle région a pour souci, comme beaucoup d'autres, de relier les lieux et les acteurs du local entre eux. Pour y avoir été présent, je reconnais que la volonté de travailler collectivement est largement bien partagée à cet endroit. Bravo. Dans le parc foisonnant des animations et créations culturelles, il a les grosses et les petites cylindrées. Puis il y en a une qui commence à prendre ses aises au milieu, entre les deux si vous voulez, avec un budget conforté, puis une foule d'aficionados. C'est le Limoux Brass Festival, 10e édition cette année, et des cuivres venus du monde entier comme David Fernandez va nous le confirmer dans une poignée de secondes. Aux confins de l'Aude et de l'Ariège, nous nous rendrons ensuite à la rencontre d'un collectif agricole qui se situe en zone défavorisée, dépouillé des compensations liées au handicap naturel propre à leur territoire. Élus agriculteurs ont décidé de mettre symboliquement en vente leurs exploitations et même leurs communes. Loïc Albert fait partie des éleveurs concernés par cette situation dans un espace qui porte un nom bien étrange, la Piège.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
David Fernandez, bonjour.
Bonjour.
David, programmateur, cofondateur du Limoux Brass Festival, qui s'appelait avant le Festival Limoux Cuivré Spécial. On est passé dans une autre dimension, parce que cette année, on va parler anglais, enfin plutôt américain à Limoux, là, dans quelques jours, avec le Count Basie Orchestra.
Oui, voilà, tout à fait. Au départ, c'était donc à l'initiative de la Lyre de Limoux, qui est l'harmonie de Limoux, et qui fêtait donc en 2009 ses 120 ans. Oui. Et à l'occasion de cet anniversaire, donc on a souhaité créer cet événement qui s'appelait donc au départ Limoux Cuivré Spécial, en clin d'œil à nos amis viticulteurs cuvée spéciale. Et bon, pour des raisons après de communication, donc on a changé de nom, et donc pour l'appeler Limoux Brass Festival, effectivement. Un autre clin d'œil aujourd'hui à nos copains américains qui viendront nous rejoindre sur la scène de Limoux.
Oui. Alors, il y a plusieurs originalités. En dehors du fait que ce soit un événement musical devenu international, d'abord, 600 musiciens en combien ? 4 jours, 5 jours ?
En 5 jours, oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a toute la partie internationale avec les plus grandes stars planétaires de la discipline. Hein. C'est-à-dire, on va présenter sur la scène de l'Olympie, donc de la musique classique, la musique jazz, en passant par la scène musique actuelle, musique du monde. Donc ça, c'est tout ce qui se passe donc avec les stars internationales. Mais dans la centrale de cette manifestation, on a des projets pédagogiques autour de nos grandes stars. Et on aura ainsi donc deux orchestres à l'école représentés, l'orchestre du collège Joseph Delteil, 300 élèves sur un conte musical qui s'appelle Tony Tuba, et donc tous ces élèves vont se produire dans le village du festival.
Deuxième avantage, c'est que vous n'êtes pas en plein été, comme beaucoup de festivals qui s'implantent dans le sud de la France. C'est dans quelques jours, 10e édition, 27 avril au 1er mai.
Oui, on avait choisi cette date pour effectivement sortir du calendrier d'une part des festivités, comme vous le disiez, mais aussi puisqu'il fallait intégrer ces projets scolaires et donc préparer tous ces enfants donc à ces concerts et pouvoir les montrer au public.
Chaque année, David, vous avez un grand parrain, mais alors j'ai pas le nom de celui de 2018.
Alors celui de 2018 s'appelle Stéphane Labéry. Michel Plasson, qui dirigeait à l'époque l'Orchestre du Capitole, aimait le surnommer le Pablo Casals du tuba. Stéphane est tuba solo à l'Orchestre de Paris, à l'Opéra de Paris, et en même temps professeur au Conservatoire National Supérieur de Lyon. C'est un des tubistes les plus talentueux de sa génération.
Alors vous nous avez parlé pédagogie, comme dans les festivals, les grands festivals, mais vous êtes devenu grand, 20 000 festivaliers, hein, c'est pas rien. Vous organisez des masterclass
Oui, on profite de Stéphane pour effectivement organiser un stage de tuba autour de lui et de ses copains, hein, puisque avec Stéphane, on retrouvera John Sass et Michel Godard, qui sont deux autres sommités mondiales de l'instrument. Et on a aussi un stage de percussion qui réuniront pour les deux stages 150 enfants en tout.
Évidemment, un événement culturel comme le vôtre permet d'animer un territoire, mais on oublie la partie économique. Quel est l'impact économique du Limoux Brass Festival ?
Alors, le budget global du festival est assez modeste parce qu'il est quand même géré entièrement par des bénévoles, donc on n'a pas de coût de professionnel, mais si vous le rapportez à un coût professionnel, évidemment, ce serait beaucoup plus important. Aujourd'hui, on est sur un budget global de 230 000 euros, et donc l'aspect d'IDAM et l'Inspection Générale des Finances disent que pour les actions culturelles, il faut multiplier par 7 environ, donc les impacts sur le territoire. Donc, si vous faites le calcul, on serait à peu près à 1 610 000 euros. Voilà, c'est une activité considérable là pour le territoire du Limoux, ça c'est certain.
Et comment avez-vous fait pour convaincre le Count Basie Orchestra de venir à l'Olympie de Limoux?
Alors, convaincre, ben, vous savez, chaque année, c'est une longue recherche de longue haleine. Et ça fait un moment, donc, on essaie de converser donc avec les productions. Et là, grande chance, justement, qui est notre difficulté, c'est que cette fois-ci, le Count Basie est en tournée européenne. Et donc, suite à la Suisse, il fera petit tour à Limoux pour rejoindre notre scène.
Ouais, ils vont dire « Limoux Brass Festival
». Exactement. Bon, après, je suppose que on n'est pas au premier Américain qui foule la scène limouxine, puisqu'on a eu déjà des Wycliffe Gordon.
Oui.
Et donc, bon, la communication se fait beaucoup entre les artistes internationaux, et on sait qu'aujourd'hui, Limoux est une scène réputée pour le monde des cuivres.
Oui, Wycliffe Gordon, tromboniste qui était le parrain du festival 2016. Alors, cette année, ça va faire du bruit du 27 avril au 1er mai à Limoux. Le site, c'est limoubrass.fr, et puis Limoux Brass, la même chose pour la page Facebook. Merci David, et bon festival.
Merci à vous, merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Un courrier de Thierry destiné à nous interpeller sur le travail réalisé par Laurent Cavalier. Ce musicien a collecté durant de nombreuses années les chants populaires qui ont animé les pays au doigt depuis le début du 19e siècle. Ce work in progress occitan, comme l'écrit encore notre correspondant, va au-delà d'une simple geste musical pour exhumer la mémoire qui peut passer pour un pari d'avenir. La modernité de cette culture, c'est par exemple la mal coiffée sextuor vocal féminin dont Laurent Cavalier est le directeur artistique. Puis vous pouvez aussi trouver le détail du travail de ce compositeur dans le collectif de La Fabrique à laquelle il participe. C'est la Fabrica Occitanica. Vous allez avoir l'adresse à notre page d'émission. Et à ce sujet, le CIRDOC, le Centre Interrégional de l'Occitan, organise ce vendredi une journée d'études des chercheurs et des jeunes chercheurs en domaine occitan à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Loïc Albert, bonjour.
Bonjour.
Loïc, vous êtes éleveur de vaches laitières, vous êtes membre d'un collectif et porte-parole des agriculteurs qui sont concernés par ce collectif, mais aussi des sympathisants et des élus. Il s'appelle Pour que vive la Piège. La Piège, c'est une zone aux confins de l'Aude et de l'Ariège qui présente quelles difficultés pour des éleveurs et agriculteurs comme vous ?
Alors, la zone qui est touchée par cette mesure aujourd'hui de refonte des zones défavorisées, elle se situe plus sur l'Aude, hein, on va dire.
Ouais.
Voilà, c'est la Piège et le Razès, c'est sur l'Aude limitrophe Ariège, voilà, on va dire. L'agriculture qu'on trouve dans cette zone, c'est tout simplement toute l'agriculture qu'on peut trouver en France. On a autant d'élevage que de céréaliculture. C'est une agriculture très diversifiée, autant bio que conventionnelle, autant en circuit court qu'en circuit normal. On trouve toutes sortes d'agricultures dans notre zone.
Ouais. C'est un peu malheureux d'habiter la Piège.
Non, le nom de la région, elle s'appelle comme ça. Ouais. C'est le Razès, mais nous, la zone est toujours pleine à Piège.
Ouais. Mais alors, Loïc, vous êtes pris donc au piège de la nouvelle carte des zones qui peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires de handicap naturel, puisque les agriculteurs sont éligibles à ces aides de l'Union européenne lorsque les zones sont soumises à des contraintes naturelles. Chez vous, c'est évident, sauf que vous n'en bénéficiez plus maintenant ?
Tout à fait. Il y a eu une refonte de ces zones qui a été demandée par l'Europe et les États membres de l'Union européenne ont choisi 8 critères sont relativement simples, on va dire. C'est des fortes pentes, des sols drainants ou pas bien drainants, caillouteux, des sols pauvres, voilà, c'est ce genre de critères-là. Et quand on connaît la piège, dans ces critères, forcément on y rentre. On le sait, nous on le sait qu'on y rentre. Mais aujourd'hui, l'État a fait faire des études à divers organismes. Ces études-là montrent que les terres de la piège sont plus riches que les terres du Lauragais, que les terres de la piège sont plus profondes que les terres du Lauragais, que les terres de la piège ont moins de cailloux que les terres du Lauragais, ce qui est totalement faux. Ouais. Voilà, il suffit de venir se rendre sur site, quoi, dans nos terres à nous, pour comprendre que voilà, il y a vraiment un problème dans ces études-là. Ouais. Et nous, ce qu'on dénonce depuis le début, c'est que il n'est pas possible de dire à un agriculteur ou à un éleveur de la piège que sa zone, elle est plus riche que la zone du Lauragais. Mmh. La zone du Lauragais où il y a les rendements qui sont bien plus élevés que les nôtres, où tout simplement le prix des terres, il est quasiment deux fois plus élevé que le prix de nos terres à nous, oui, à l'hectare.
Loïc,
et donc voilà.
Oui. Loïc, vous concernant concrètement la perte de ces aides compensatoires, ce chiffre à combien ?
On est trois associés sur l'exploitation, je travaille avec mon père et ma sœur, et donc aujourd'hui ça correspond à 16 000 euros par an. Et 16 000 euros par an, c'est tout simplement le salaire d'un des trois associés.
Oui.
Voilà, c'est inenvisageable la perte de ces aides. Ça remettrait en cause toute la structure. On a fait des efforts. On est passé en agriculture bio, on est passé en circuit court, vente directe, en transformation. On a fait tous les efforts qu'on nous demandait. Et aujourd'hui, encore une fois, on nous remet un coup de barre derrière la tête en nous enlevant ces aides. Voilà, dans la cinquantaine d'exploitations touchées par cette refonte des zones défavorisées, c'est la même situation. C'est-à-dire que c'est entre 5 et 15 000 euros par éleveur, et pas par élevage, hein, par éleveur, parce que dans un élevage, oui, on peut avoir deux ou trois éleveurs, par éleveur, qui vont être perdus, et ça correspond tout simplement au salaire des éleveurs.
Ouais. Et alors je disais, le collectif réunit des sympathisants, des éleveurs et des producteurs, mais aussi des élus, et du coup vous avez décidé de monter au créneau et de mettre en vente, alors on a les villages sur le site du Bon Coin en vente, vous mettez aussi votre ferme en vente.
Tout à fait. Voilà. Alors ce collectif, il est né en fait d'une réunion entre quelques éleveurs et quelques agriculteurs du coin. Et au fil et à mesure du temps, on a fait quelques manifestations, mais c'était des manifestations gentilles, on va dire, où on n'a jamais rien cramé, on n'a jamais rien cassé. On a fait juste de l'information au niveau de la population, en faisant des barrages filtrants, tout gentil, voilà. Et du coup, vu qu'on a respecté tout le monde, eh bien, toute la population locale, et notamment les élus, se sont joints à notre mouvement. On s'est tous associés pour défendre la piège, et toujours dans un état d'esprit irréprochable, sans rien dégrader. Et voilà, on a eu quelques idées comme la mise en vente des villages, la mise en vente de certaines exploitations sur le Bon Coin, un enterrement des communes de la piège avec une cérémonie. On a fait plusieurs choses. Dimanche 11 mars, on a même fait le premier salon international de l'agriculture défavorisée, où il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont rejoints sur le site de Fanjo. Voilà, il y avait une mini-ferme, des producteurs locaux. On essaie de tout faire pour parler de nous et pour démontrer, pour bien faire comprendre à la population régionale ou française que non, c'est pas possible qu'on sorte de ces zones-là.
Ouais, on est tout cœur avec vous. La page Facebook, c'est pour que vive la piège, hein, tout simplement. Vous pouvez rejoindre le collectif et le soutenir, oui, pour sortir de cette ornière et sortir de ce piège. Donc, bon courage, Loïc.
Merci beaucoup. Au revoir.